Nous continuons en quelque sorte nos enquêtes bibliques et le thème du jour est « Que s'est-il passé à Sodome et Gomorre ?» Alors c'est un sujet un peu délicat, on presse assez rarement sur ce texte-là, et encore moins sur un des textes que je vais mettre en parallèle tout à l'heure, mais il nous a semblé important dans toute cette série de prédications où nous menions en quelque sorte des enquêtes, d'aller voir vraiment dans les textes ce qui s'y trouvait, et pas seulement d'entendre ce que l'on en dit. Donc voici d'abord la lecture de Genèse 19, puisque cet épisode se trouve dans Genèse 19, et puis ensuite la lecture d'un passage de l'évangile de Luc, au chapitre 10, où Jésus fait allusion à la faute de Sodome. Le texte est assez long, mais comme c'est de la narration, je pense que vous arriverez à suivre. Les deux messagers, ou les deux anges, suivant les traductions, arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et y passer la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous prie. J'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Les habitants de Sodome répondirent, « Dégage !» Ils dirent encore, « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les messagers étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire les villes. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les messagers insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir, ils le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne, de peur que tu ne succombes. » L'autre leur dit, « Oh non, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie. Ton serviteur a obtenu sa faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai, je t'en prie. Voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là, n'est-elle pas petite, et que je reste en vie. Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour ça que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, c'est-à-dire « petit ». Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur le ciel, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorre, et sur tout le pays de la plaine, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham, et il retira Lot du cataclysme, lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Alors, un peu de douceur, hein. On sait très bien que dans le Nouveau Testament, c'est toujours plus doux que dans l'Ancien, donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Mais vous allez voir que c'est pas si doux que ça, mais enfin. Après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples, donc il est en train de choisir ses disciples, et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute la ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, « Que la paix soit sur cette maison. » Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où on ne vous recevra pas, allez sur les places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Cette histoire donc de la destruction de la ville de Sodome et de la ville de Gomorre est bien connue, probablement trop connue, et comme bien des récits familiers, nous oublions de les relire. Il est vrai qu'elle a donné les mots de sodomie, par exemple, et évidemment, lorsqu'on entend cette histoire, on pense que le péché de cette ville, c'est l'homosexualité. Mais en réalité, je vais essayer de voir avec vous qu'il en est tout autrement. En effet, nous allons pour cela essayer de mener une sorte d'enquête, c'est-à-dire à la fois relire ce texte, le texte de Genèse 19, mais aussi voir d'autres textes dans lesquels les mentions de Sodome et de Gomorre, ou de Sodome simplement et de sa destruction dans la Bible, dans d'autres allusions à ce récit. Une enquête. Alors évidemment, on peut toujours se rendre sur place, puis vous verrez en effet des concrétions qui ressemblent à des statues de sel. Vous verrez là en Jordanie, de l'autre côté du Jourdain, dans ce pays où est censée se passer cette action, parce qu'on n'a jamais retrouvé en fait les traces de cette ville, de Sodome et de Gomorre, en fait un paysage presque lunaire qui fait penser en effet que tout a été détruit et que comme c'est le soleil est très important là-bas et tape la terre, on peut croire que tout a été brûlé. En effet, ce récit a certainement d'ailleurs cette fonction étiologique pour nous expliquer le paysage de cette région de la Jordanie. Mais en réalité, cela ne nous a dit rien d'autre. Donc nous n'avons qu'une chose pour essayer de voir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre, eh bien, c'est de faire une enquête dans le texte biblique lui-même. Alors, évidemment, cette attaque presque des habitants de Sodome, du plus jeune jusqu'au plus vieux pratiquement, lorsque les messagers, les deux hommes, on ne sait pas trop, le texte est d'ailleurs assez flou, on ne sait pas qui sont ces hommes, ils viennent de quitter Abraham, ce sont ceux qui viennent aussi d'annoncer à Abraham la naissance d'Isaac. Donc ce n'est pas n'importe qui, les messagers dans la Bible sont appelés aussi des anges, mais par moments dans le texte ils sont des messagers, ils sont des hommes, des anges. Toujours est-il que ce sont des étrangers qui arrivent dans cette ville de Sodome et que bien que invités par Lot et étant dans la maison de Lot, eh bien les habitants de Sodome veulent absolument les connaître. Alors évidemment ce mot de connaître, ce verbe connaître dans la Bible a plusieurs significations. D'abord, et c'est vrai, il signifie connaître, faire connaissance, savoir qui est la personne. Et vous allez voir tout à l'heure que le mot est employé par Dieu à propos d'Abraham, j'y reviendrai. Mais connaître dans la Bible, c'est aussi avoir des relations sexuelles. Alors, est-ce bien cela qui est dit dans ce texte ? On pourrait simplement penser qu'ils veulent les connaître, savoir qui ils sont, qu'ils voudraient vraiment qu'ils déclinent leur identité. Bon, ça m'arrangerait peut-être, mais en fait, je ne pense pas du tout que ça soit ça, et d'ailleurs, la suite du récit le dit bien, puisque Lot, lui, ne s'y trompe pas, puisqu'il propose ses filles en échange des hommes. Alors, on voit bien que le désir des hommes qui sont autour, eh bien quelque chose est en lien avec la sexualité. Mais en réalité, lorsque Lot propose ses filles, il ne se trompe pas sur ce que veulent les hommes, mais ça montre aussi que ce n'est pas tant l'homosexualité qui est en jeu ici, mais que le viol et la violence. Et peut-être ce qui est à mettre en avant encore plus que le fait que ce soit des hommes ou des femmes, c'est bien ce désir de viol et de violence qui est condamné ici dans ce texte. Et il y a un autre texte, mais j'y reviendrai tout à l'heure au cours de cette enquête, qui me conforte un peu dans ce que je suis en train de vous dire. Et puis, à mon avis, il y a d'autres choses aussi dans cette histoire. Il y a d'abord ce qui est reproché, ce qu'on pourrait reprocher à ces hommes de Sodome et de Sodome, eh bien, c'est aussi la relation qu'ils ont avec l'étranger. Lot est là depuis quelque temps, il s'est installé, visiblement, il est assez riche, donc il prospère. Tant qu'il ne bougeait pas trop, eh bien finalement, on ne lui reprochait rien. Mais là, les habitants de Sodome vont déployer leur violence contre lui aussi. Parce que lorsqu'il refuse de leur donner, leur livrer en pâture les hommes qu'il reçoit, eh bien c'est contre Lot que la violence se retourne. Ils disent, et c'est textuellement, aucune Bible ne traduit comme ça malheureusement, ils disent textuellement « dégage ». Ils disent à Lot « dégage ». Et puis après ils ajoutent « celui-ci est venu tout seul comme un migrant et il veut faire le juge ». Et en fait, là, tout de suite, ils reprochent à Lot son statut d'étranger. Il y a encore une chose que l'on peut pointer dans ce récit, et qui semble faire problème, et en effet, où l'on peut trouver aussi une faute. Je ne sais pas s'il y a un mot, je suis toujours gênée entre la faute et le péché. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Une autre faute, c'est eh bien, la violation de l'hospitalité. L'hospitalité est quelque chose de sacré dans cet Orient ancien. On ne peut pas, en effet, violer l'hospitalité. Et c'est bien ce que font ces hommes. Eh bien, Lot a accueilli chez lui, il a reçu, bien reçu, donné à manger, lavé les pieds, il a fait tout ce qu'il fallait pour ces hommes. Et l'hospitalité est quelque chose contre lequel on ne peut pas aller contre. Ça me rappelle, il y a un certain temps, en Corse, quand Yvan Colonna s'est fait arrêter, la plupart des Corses portaient un t-shirt marqué « L'hospitalité n'est pas un crime ». Mais en tout cas, dans le texte biblique, et là et ailleurs, ne pas recevoir, ne pas accueillir, ça, c'est un crime. Donc on voit que si l'hospitalité est quelque chose d'absolument essentiel dans cet Orient ancien, parce que si vous n'accueillez pas les gens, en quelque sorte, ils meurent. En effet, si l'autre les avait laissés sur la place des Millages, imaginez ce qu'aurait pu leur arriver. Donc, aller chercher quelqu'un et refuser l'hospitalité ainsi que l'on fait, peut-être que c'est là aussi la faute essentielle que commettent les hommes de Sodome. Toujours est-il qu'on voit plusieurs fautes et il est difficile de pencher pour l'une ou pour l'autre. Le texte biblique, le texte de Genèse 19 ici, n'est pas finalement extrêmement clair. Moi, ça m'arrange toujours quand les textes sont pas clairs parce que finalement, ça nous invite à chercher et chercher encore. Et c'est bien ce à quoi nous invite le texte biblique. Je noterai au passage que la tradition qui a donné beaucoup d'ampleur à ce texte, la tradition a essayé de boucher les trous. Ainsi, la tradition puis la littérature, vous connaissez la plupart d'entre vous le Sodome et Gomorre de Marcel Proust, mais dans le Coran aussi, on peut voir que le péché qui est pointé est bien celui de manière explicite de l'homosexualité. Donc on voit que si la Bible est floue, d'autres ont essayé de remplir le flou. Eh bien moi, plutôt que remplir le flou, je voudrais que nous allions un peu enquêter dans la Bible. D'abord, en regardant, alors je ne vais pas toutes vous les citer, les allusions à la destruction de Sodome et Gomorre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je voudrais dire que de toutes les histoires de la Genèse, il n'y a pas de texte plus repris que l'histoire de Sodome et Gomorre. On voit l'importance qu'il y a dans la Bible faite à ce récit. Le péché de Sodome et Gomorre, la faute de Sodome et Gomorre, ainsi qui aurait mené à la destruction. Alors, si l'on fait attention un peu à toutes ces références, que ce soit dans l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, jamais il n'est question d'homosexualité. Par contre, il est question, dans Ézéchiel, voici ce fut la faute de Sodome, orgueilleuse, repue, tranquillement insouciante, ne s'occupant pas de la veuve, etc., etc. Il est question, là, de justice sociale, d'accueil, d'orgueil. Ce qui est pointé, donc, c'est tout à fait autre chose. Dans Jérémie, c'est l'adultère, la fausseté, l'encouragement des malfaiteurs qui est pointé. On voit bien que les fautes reprochées à Sodome sont tout à fait multiples. Et puis, ce qui est important, c'est presque en quelque sorte la fonction un peu éducative. Attention, si vous faites tout cela, eh bien vous serez détruits, comme Sodome. Et même on peut l'entendre de manière personnelle. Attention, si vous faites tout cela, eh bien vous allez être détruits vous-même. Et dans le Nouveau Testament, vous l'avez entendu, de nombreuses allusions à Sodome, et particulièrement dans ce passage de Luc. Et en fait, ce que Jésus pointe, c'est l'hospitalité. Il faut en effet que les gens soient accueillants. S'ils ne sont pas accueillants, s'ils ne vous accueillent pas, s'ils n'accueillent pas les disciples, eh bien, ils seront voués à pire que Sodome. Donc, on voit bien cette première enquête très rapide sur les textes qui évoquent Sodome et Gomorre, pointe beaucoup plus, de manière générale, l'exercice de la justice, du droit et de l'hospitalité. Et c'est bien ce que l'on peut mettre en parallèle avec ce qui se passe juste avant, parce que l'histoire de Sodome et Gomorre commence en fait avant, en Genèse 18. Il y a un magnifique dialogue entre Dieu et Abraham. Dieu qui annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorre, et Abraham qui essaye de marchander avec Dieu, qui lui dit « Si t'en trouves 100, est-ce que tu détruiras ?» Dieu dit non. Et 50, et 45, et 40, et 35. Puis il arrive à 10. Puis là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, Abraham essaye de sauver Sodome. Abraham, que Dieu nous dit « Car je l'ai connu, il a connu en effet Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. » Et peut-être que c'est ça qui est à mettre en opposition avec les fautes de Sodome. C'est que Abraham, lui, pratique la justice et le droit. D'ailleurs, les deux ensemble. Parce que peut-être que l'un sans l'autre, eh bien, ça n'irait pas trop. Eh bien, Abraham, lui, est injuste. C'est-à-dire qu'il va essayer de sauver, de pardonner jusqu'au bout, entre autres, dans ce passage, dans ce dialogue avec Dieu. Et puis, dans ce chapitre 18, on peut aussi faire des parallèles. Abraham accueille, il accueille les messagers, tout comme Lot, d'ailleurs, va les accueillir, contrairement aux habitants de Sodome. Et puis, on peut faire un autre parallèle, c'est dans le chapitre 18, c'est la promesse de la naissance d'Isaac. Et à la fin, nous allons le voir tout à l'heure, eh bien, il y aura aussi naissance de Lot, de petits-enfants pour Lot. Et puis, je voudrais faire un parallèle aussi, en continuant mon enquête, avec un texte sur lequel jamais, vous n'avez jamais entendu prêcher probablement, qui est le texte de Juges 19. Texte épouvantable, on est à la fin du livre des Juges, tout va s'écrouler, ils n'ont pas droit, alors ça nous est rappelé, et tout s'écroule. C'est une histoire fort ressemblante, l'histoire d'un homme, un Lévite, donc, qui a une concubine, d'ailleurs... qui n'est pas très fidèle, d'après ce qu'on nous dit, mais enfin, il a une concubine et il rentre chez lui avec sa concubine qu'il allait rechercher chez son père. La concubine habite à Bethléem, elle vient de Bethléem. Et puis, il arrive dans un petit village, Gibéa, et puis là, il doit passer la nuit, il est accueilli par un vieillard. Et là, les habitants de la ville ou du village arrivent autour et réclament la femme. C'est exactement la même histoire, d'ailleurs, c'est le même vocabulaire, vous pouvez voir, c'est la même histoire, mais il s'agit là d'une femme. Et l'histoire, évidemment, va être différente parce que cette femme va être livrée en pâture aux habitants du village. Et au petit matin, il récupère sa femme, probablement morte. On ne dit pas qu'elle est morte, mais enfin, on nous dit que quand il lui parle, elle ne répond pas. Il rentre chez lui, il la met sur son âne, et puis là, il la découpe en 12 morceaux et il l'envoie aux 12 tribus. Alors, vous voyez que c'est une histoire qui est assez épouvantable. Et tout ça se termine dans un bain de sang. En fait, il va y avoir une guerre entre les 11 tribus et la tribu de Benjamin. Et le livre des Juges se termine de manière épouvantable ainsi. Et d'ailleurs, ce serait un autre sujet de prédication. C'est tout à fait intéressant de voir l'évolution du rôle de la femme dans le livre des Juges. Et à la fin, elle n'est vraiment, alors que la société est complètement dans le chaos, et bien cette femme aussi, découpée en 12 morceaux, symbolise en quelque sorte le chaos. Donc on voit un récit, là, tout à fait semblable, qui condamne quand même le geste aussi de ses habitants, puisqu'ils vont être détruits aussi par la guerre ensuite, pas par le feu. Mais en fait, ici, il s'agit d'une femme, et ce qui s'est pointé, c'est bien le viol, la violence, et le fait de ne pas respecter l'hospitalité. On voit qu'il y a des liens, et on voit donc que dans ce récit, de Sodome et Gomorre, de la destruction de Sodome et Gomorre, eh bien, il est bien difficile de pointer quelle est la faute exacte. C'est pour ça que je parlais, j'aime pas le mot faute péché, et que j'aime bien notre liturgie, puisque nous confessons non pas nos péchés, quels sont-ils, ils sont bien nombreux, mais le péché. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a tellement de choses que nous faisons et qui sont mal. Mais le péché, c'est justement peut-être de croire que, eh bien, nous n'avons pas à répondre de nos actes. Et peut-être que c'est ça, en fait, qui est pointé là, que quand nous commettons le mal, eh bien, tout peut se passer comme ça, bien pour nous après. Peut-être que c'est ça, le péché. Je ne sais pas. En tout cas, et c'est croire surtout qu'on est tout puissant. Les hommes qui arrivent comme ça autour de la maison de Lot se croient tout-puissants. Ils pensent pouvoir diriger la vie des autres, avoir le droit de vie et de mort sur les autres. Peut-être que c'est là le péché le plus grand, se croire tout-puissant et avoir le droit de vie et de mort sur les autres. D'ailleurs, ce récit, je dois dire, est aussi à mettre en quelque sorte en parallèle avec le récit de la Genèse, vous savez. Dans la Genèse, c'est la destruction par l'eau, et ici, en quelque sorte, c'est la destruction par le feu. Tout se passe, c'est étonnant, nous on sait bien qu'il y a des gens qui habitent autour, entre autres Abraham, mais tout se passe à la fin comme si Lot et ses filles, qui réchappent de ce cataclysme, ignoraient qu'il reste un monde autour d'eux. Alors là, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Les filles de Lot, voyant qu'il n'y avait pas d'autre homme, vont faire boire leur père, et elles vont coucher avec lui également. Elles vont avoir chacune un enfant. Alors que c'est vrai que c'est pas très joli non plus cette histoire-là. L'histoire, c'est une sorte d'inceste, mais pourtant, c'est assez étonnant, c'est que la Bible ne condamne pas vraiment, le texte biblique ne condamne pas vraiment cet inceste. Inceste presque sans violence, quoiqu'elle trompe quand même largement leur père. Mais inceste, c'est aussi une manière de ridiculiser Lot. Lot qui, en fait, contrairement à la figure d'Abraham, est assez ridicule là. C'est même burlesque. Il ne s'en sort pas vraiment grandi. Lui qui voulait offrir ses filles aux habitants alentour, finalement, c'est ses filles qui couchent avec lui pour avoir des enfants, parce que dans la Bible, la vie est toujours plus importante que le reste. Et il va y avoir ces naissances incestueuses. Et on pourrait croire que la malédiction va s'en suivre. Eh bien, la Bible nous dit aussi bien autre chose, et là on sort du récit de Sodome et Gomorre, c'est que la malédiction n'est jamais inéluctable. Parce qu'on va retrouver ces descendants des filles de Lot, tout particulièrement dans un livre qui se passe au temps des juges, mais qui est bien plus joli que cette fin du livre des juges, qui est le livre de Ruth. Ruth, cette femme figure de la croyante, exemple dans tout le judaïsme puis dans tout le christianisme, eh bien Ruth est une Moabite, elle est descendante donc de cet inceste. Elle va savoir renverser en quelque sorte, il y a beaucoup de renversements dans le livre de Ruth, renverser la malédiction en bénédiction. Et le livre va être empli de bénédictions, parce que par son comportement, par son adhésion à la foi de sa belle-mère, elle peut renverser les choses. Ainsi, rien n'est inéluctable. Nous ne sommes jamais enfermés dans notre histoire familiale, ou même notre propre histoire et tout ce qu'on a pu de faire mal. Il est toujours temps de se convertir, de se renverser. 8 bénédictions dans le livre de Ruth. 8 bénédictions et là aussi une descendance, une fécondité, avec à la fin cette merveilleuse bénédiction qui rend à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire sa bonté. Béni soit l'Éternel, qui n'est pas celui qui détruit, mais qui est bien au contraire celui qui nous invite à nous tourner vers les autres et vers lui afin de ne pas être détruit. Amen.